Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec Marwa Omrani.
Bonjour à tous, bonjour Jacques. Oui.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors, je reçois ce jour une jeune femme dynamique, motivée, battante, elle va nous le prouver, qui a des idées et qui se bat pour les faire aboutir. Bonjour Marwa Omrani.
Bonjour, bonjour.
Parlez bien dans le micro, va, ce sera mieux. Qu'on vous entende bien, vous avez une petite voix, ça va, il faut la chauffer cette voix, on va y procéder, rassurez-vous. Marwa, vous êtes née de l'autre côté de la Méditerranée, et puis vous êtes venue en France toute petite, avec vos parents, arrivée à Cognac, et puis après Toulouse.
Tout à fait.
Sacré parcours.
Escale à Bordeaux en cours de route, mais j'ai posé les bagages à Toulouse en tout cas.
Et vous y êtes restée.
Oui.
Voilà. Pas de regret du Maroc, non ?
Non, aucun.
Non.
On peut allier les deux.
Voilà, il faut allier les deux. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à ce micro, qui viennent des deux côtés de la Méditerranée, qui, eh bien, ma foi, s'enrichissent des deux différences. C'est très bien comme ça. Alors, vous êtes destiné d'entrer à la santé. Ça a été votre choix. Pourquoi ce choix ? On aurait pu en faire d'autres.
Tout à fait, mais la santé pour moi c'est très important puisque du coup j'avais ma grand-mère petite qui était malade et souvent je m'occupais d'elle et j'étais déjà assez petite et bienveillante envers elle. Et je pense que ça a été utile dans cette vocation puisqu'au départ je voulais être médecin et après je me suis dit j'ai besoin du contact avec les personnes.
Les médecins quand même, ils voient des patients.
Rapide.
Ah ça, oui, il faut payer les charges. Hein, non mais certains sont des bons médecins, on en connaît même qui sont passés par... ce studio qui prennent le temps d'écouter leurs patients, de passer du temps avec eux, d'essayer de comprendre. Il y en a quand même, il en reste quand même.
Heureusement d'ailleurs qu'on peut compter sur eux. Et surtout, le contact est un petit peu différent. Quand on est infirmière, on a quand même une proximité avec le patient et la famille. Et on y passe beaucoup plus de temps. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus amené. Et là, aujourd'hui, je trouve que je suis plutôt bien à ma place avec les médecins qui prennent les responsabilités. Et les collaborations qu'on a sont super top. Et j'ai des associés aussi qui sont géniales, qui me permettent de faire ce que j'aime.
Donc vous avez choisi la profession libérale plutôt que de travailler dans une clinique, un hôpital ?
Je n'ai pas vraiment choisi, je crois qu'elle m'a choisi en fait. À la base, j'étais dans des établissements de santé, je changeais fréquemment d'établissement dès que je me lassais pour ne pas vider mes batteries. Et j'ai rencontré mes associés qui sont donc sur un secteur un peu différent du libéral. Je pensais que je n'aimerais pas, j'ai voulu tester et au final, ça fait 10 ans que j'y ai posé mes bagages et que j'y suis très bien avec des super patients, des difficultés, mais malgré tout, de très très bons côtés.
Vous exercez où, dans quel quartier ?
Dans le 3100, au Mirail.
Au Mirail. Au Mirail, il y a beaucoup de patients.
Oui.
Donc ça fait que vous avez un secteur géographique assez limité finalement.
Tout à fait.
Vous ne faites pas comme les infirmières de campagne qui font des dizaines ou des centaines de kilomètres par jour.
On fait quand même 120 km pratiquement par jour, juste sur un secteur, puisqu'on a quand même pas mal de patients qu'on essaye de gérer au mieux avec tous les aléas qu'il y a autour, en essayant de les aider au niveau de la prise en charge médicale, tant médicale qu'autre, puisque parfois on est bien plus que des infirmières dans le cadre de ces prises en charge.
Et votre patientèle, ce sont des gens âgés, ce sont des jeunes
On a de tout, on a de tout âge en fait. On a vraiment de tout âge, on a des personnes âgées et puis on a souvent du coup, les enfants, les petits-enfants quand il y a besoin. En général, dans ce genre de secteur et puis dans le libéral surtout, on est des infirmières de famille. Donc du coup, quand on prend en charge les patients, bien souvent c'est la famille complète, les amis, etc. Puisqu'on se croise souvent et c'est des secteurs où on a de la chance, où il y a une grande joie de vivre. Donc,
Vous faites du nursing ?
Nous, non.
Non, c'est un choix ?
C'est un manque de temps. On fait déjà des grosses journées de 6h30 à 21h30. Donc malheureusement, on n'a pas la possibilité de prendre plus que sur nos journées, en fait.
Vous êtes nombreuses dans l'association ?
On est trois infirmières.
Trois infirmières.
Oui, tout à fait. Florence et Mylène.
Et vous arrivez à bien vous entendre, à bien fonctionner, à bien répartir. J'ai remarqué que les infirmières faisaient des journées de folie pendant 8, 10, 12 jours. Après, on s'arrête brutalement et puis on recommence. J'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre comment vous arriviez à vous organiser.
On a l'avantage d'être complémentaires. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'aide plutôt pas mal. Et puis, On est deux sur le secteur de Toulouse. Il y en a une qui est un peu excentrée, mais on s'arrange toujours en fait pour trouver des solutions au niveau des plannings, etc. Et puis si une a besoin, même si on ne travaille pas, on sera à même de venir l'aider. Si on est joignable par téléphone, c'est au-delà d'un travail. Les jours de repos, on est connecté avec le travail.
Qu'est-ce qui est compliqué dans ce métier ?
Je pense que c'est les déceptions. Parfois, on est là pour soulager et pour aider les personnes, mais parfois, notre travail a des limites et c'est parfois difficile. Alors, on essaye d'apporter ce qu'on peut au moment donné. On essaye d'apporter peut-être un peu de joie, de soutien, d'affection, de technicité, parce qu'on est aussi des infirmières et donc on a des soins techniques. Mais je pense que le plus difficile, c'est les échecs thérapeutiques qui ont des conséquences aussi sur nous.
Échec thérapeutique, ça veut dire la mort ?
La fin.
Vous avez des contacts avec les médecins qui suivent ces patients ou oui ? Il y a un vrai dialogue
On a la chance d'avoir des médecins avec lesquels on travaille, où on travaille vraiment en partenariat. Du coup, ils ont beaucoup de travail, mais ils sont réactifs quand on a des besoins, que parfois, ils ne peuvent pas forcément se déplacer au niveau du patient parce que le domicile, c'est assez compliqué. Il y a de moins en moins de médecins qui se déplacent à domicile. Donc, on essaie de faciliter le travail aussi des médecins en apportant les éléments pour qu'ils puissent poser leur diagnostic.
Votre quartier que vous avez choisi, le Mirail, est considéré comme un quartier un peu complexe, difficile, je ne sais pas comment il faut le dire. Nous, on fait une émission ici sur ces quartiers, qui est faite par les gens des quartiers d'ailleurs. Est-ce que travailler au Mirail, c'est différent que de travailler dans un autre quartier de Toulouse ?
Je pense que c'est différent, oui. Parce que les journées ne se ressemblent absolument pas. Mais je pense que cette différence, c'est cette différence qui me plaît. Parce que les journées ne se ressemblent pas et parce qu'on nous appelle fréquemment pour des choses différentes. Et si, par exemple, il y a une problématique qui se passe à l'extérieur, ils auront tendance facilement à venir nous voir puisqu'on est on a un rapport de proximité avec les personnes. C'est-à-dire que des fois, on peut faire aussi du social. On peut aussi faire des soins à titre gracieux, des pansements de parking, dans le parking, des personnes qui n'ont pas forcément de droits, des difficultés. Je pense que dans ce secteur-là, on nous rappelle vraiment les vraies valeurs. Donc, les gens sont dans le partage. Pourtant, je m'occupe d'eux et ils sont dans le partage tout le temps.
Il y a plus de solidarité dans ces quartiers que dans d'autres.
Oui. J'ai la chance d'avoir des patients. Limite, j'ai envie de vous dire, ils en font plus pour moi que moi, j'en fais pour eux.
Oui, ça, c'est beau. C'est un bel échange, humainement.
Oui.
Et ça ne vous dirait pas, évidemment, de changer ou d'aller ailleurs. J'imagine que vous êtes bien, en dehors de la notion de clientèle, vous êtes bien enraciné dans...
Une clientèle, c'est une patientèle et c'est au-delà. C'est vraiment au-delà d'une patientèle parce qu'on nous invite aux événements familiaux, on a des liens avec leurs enfants, les petits-enfants, on est invité au mariage. On a un lien qui est beaucoup plus qu'un simple lien d'infirmière qui vient, qui fait un acte technique et qui part. On les croise dehors, on est content de les croiser quand ils vont mieux. Ils nous tiennent au courant de l'évolution de leur état de santé.
Ça pourrait se passer dans n'importe quel quartier, non ?
Peut-être pas comme ça. J'ai fait des remplacements ailleurs et c'est vrai que j'ai pas eu ce lien. Je pense que j'aurais commencé le libéral dans un autre secteur. Je serais pas restée libérale. Je serais vraiment peut-être revenue dans d'autres secteurs.
Quand on travaille dans un établissement de santé, c'est plus complexe. L'échange n'est pas le même.
Différent. C'est différent parce que vous avez la contrainte d'organisation. En libéral, on s'adapte à l'organisation des personnes. Et c'est vrai qu'en secteur hospitalier, malheureusement, on le voit, le patient vient chez vous un peu et vous n'avez pas le même rapport. Là, c'est le patient qui vous ouvre sa porte. Et donc, le rapport est totalement différent. Vous faites partie totalement intégrante de sa vie. C'est lui qui vous invite, en fait. Et donc, du coup, c'est un privilège de pouvoir s'occuper d'eux.
Il y a une différence entre travailler dans le secteur hospitalier et travailler dans des cliniques privées ?
Je pense que c'est différent, tout à fait. Mais moi, j'ai touché le secteur hospitalier uniquement en intérim. J'ai fait quelques missions d'urgence, etc. Donc, je ne peux pas avoir un avis assez tranché puisque moi, je suis passée de manière ponctuelle. La clinique, c'est différent. C'est quand même une proximité. Il y a peu d'échelle au-dessus. On sait directement vers qui aller à ce niveau-là. C'est un peu plus familial et c'est peut-être plus qui me plaisait au niveau des cliniques.
Vous préférez le secteur privé ?
Jusqu'ici, j'ai...
Parce qu'on pourrait penser que dans le secteur privé, on presse un peu plus le citron, si vous me passez l'expression. On vous demande d'en faire beaucoup plus qu'ailleurs.
On vous demande d'en faire plus. À la rigueur, je pense qu'on ne vous le demande pas, c'est que vous le faites spontanément. Moi, ça ne m'a jamais dérangé de finir plus tard et de m'occuper de mon patient ou d'aider ma collègue. Ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Mais le privé, vous avez quand même un contact avec votre directeur, avec l'établissement dans lequel vous avez.
Alors que dans l'hôpital, c'est plus grand et c'est plus diffus.
C'est plus diffus et puis au-dessus, il y a encore au-dessus et encore au-dessus. Là, c'est assez facile d'accéder à la partie hiérarchique s'il y a besoin. Et puis l'ambiance est, je pense, un petit peu différente puisqu'on est moins nombreux sur les établissements privés. Donc, et puis on est malléable aussi en privé, on peut changer de service, on connaît les services, on connaît le fonctionnement de l'établissement. L'hôpital, bah, ça change quand même plutôt pas mal selon les secteurs.
Et vous avez constaté, on parle beaucoup du manque de lits, est-ce que vous l'aviez constaté à l'époque? Est-ce que c'était un problème, quelque chose dont on discutait dans les services entre infirmières?
Le manque de lits, c'était pas quelque chose...
Manque de lits ou de moyens?
Manque de moyens, on en parlait, tout à fait. Mais je vous avoue qu'une fois que vous êtes un libéral, le manque de moyens, c'est quelque chose qui vous en parlez même plus parce que vous vous adaptez à l'environnement du patient. Et là, c'est beaucoup plus qu'un manque de moyens.
Vous devenez un peu des oiseaux rares, les infirmières, parce qu'on en cherche. Oui. Tous les établissements pleurent misère. On en a fait venir d'autres pays, de Belgique, d'Espagne, voire de pays un peu plus exotiques ou plus lointains. Comment vous voyez l'avenir de votre profession ?
Je suis un peu inquiète quand même sur l'avenir de notre profession parce que du coup, c'est vrai que beaucoup abandonnent le secteur du médical, mais c'est vrai que psychologiquement, je pense que ces deux dernières années ont été rudes pour tout le monde, pour tous les secteurs de toute façon économiques. Mais le médical, c'est vrai qu'on a été mis à rude épreuve et aujourd'hui encore très certainement à rude épreuve. Et je pense que le secteur de la santé est en train d'évoluer. Je ne sais pas où ça va aller. Je ne suis pas convaincue que ce soit mieux. Mais je me dis qu'il faut qu'on soit acteur du milieu de la santé et espérer d'être positif et apporter de bonnes choses quotidiennement. C'est ce que j'essaie de faire.
Le Covid a changé votre mode d'exercice. On vient de passer 2 ans difficiles. Est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose dans l'approche du patient? Est-ce que vous avez vu un certain nombre de vos patients aussi disparaître du Covid?
On a eu quelques-uns, mais ça n'a pas été lié au Covid. On a eu beaucoup de patients qui ont eu le Covid, on a essayé de les accompagner au mieux. Plus on avançait dans le temps, plus on comprenait un petit peu plus ce qui se passait, donc on pouvait voir arriver le problème. On a eu la chance de travailler en partenariat avec des médecins qui étaient quand même accessibles au niveau des prises en charge. Donc nous, on a opté pour le fait de les garder au maximum à la maison et de pouvoir les stabiliser à ce niveau-là, plus à domicile, tant qu'on a pu. Donc jusqu'ici, on a eu quand même de la chance. Quelques-uns sont partis en hospitalisation, qu'on a continué à suivre, puisque j'appelais souvent mes collègues des services de Covid pour prendre des nouvelles des patients.
Ça vous a inquiété de travailler, d'aller chez les patients, de voir beaucoup de monde par jour avec le Covid que vous auriez pu attraper éventuellement? Enfin, j'imagine que vous êtes vacciné.
Oui, et j'ai attrapé le Covid 2 fois. Oui. Mais le Covid ne me fait pas peur. Pour moi, je suis là, ils ont besoin, il n'y a pas de problème. J'ai jamais eu réellement peur du Covid pour moi, contrairement aux personnes qui ont pu m'entourer, mais moi, je n'avais pas cette peur-là. J'avais juste la peur pour mes patients, de m'occuper d'eux. Et le Covid en soi, c'est pas du tout... c'est une manière différente, mais on s'est adapté. Au début, on a eu la pénurie de masques. Donc du coup, on a essayé de répondre à la pénurie comme on a pu. Donc du coup, je me suis mis à coudre, chose que je ne savais pas.
Ah bon, donc vous avez même fabriqué des masques alors.
On a fabriqué des masques en tissu pour nos patients. C'était une petite attention. C'était pas grand-chose, mais c'était une petite attention pour les rassurer. Et on en a rigolé. On essayait de détourner le problème et essayer de les couper du Covid, etc. Et de leur faire passer de bonnes ondes, de bonnes énergies. Parce que quand on regarde que la télé, que les infos, malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Donc...
Ah oui, on pourrait sauter par la fenêtre, effectivement, au bout d'un moment.
C'est ça, et c'est pas ce que je veux apporter.
Vous essayez d'apporter un peu plus de joie, d'ouverture et relativiser les choses. Vous comprenez les gens qui refusent de se faire vacciner?
Oui, je comprends.
Qu'est-ce que vous comprenez?
Leur choix.
Oui, mais pourquoi ce choix, à votre avis?
La peur, de l'inquiétude.
La peur de quoi?
La peur des conséquences. on a peur de toute conséquence. Dans le médical, on n'est jamais sûr à 100%.
Oui, enfin bon, quand on était allé, les vaccins étaient obligatoires à une certaine époque. Alors vous ne l'avez peut-être pas connu parce que vous êtes une toute jeune femme, mais moi, ce n'est pas mon cas. J'ai été vaccinée, on ne m'a pas demandé, je ne me suis pas vraiment inquiétée plus que ça.
Je suis vaccinée aussi, en étant dans le milieu médical, on est vaccinés, on a beaucoup de vaccinations obligatoires, ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ont peur, ils ne comprennent pas un vaccin qui est sorti rapidement, il faut les rassurer. Il faut les rassurer et je pense que...
Il est sorti rapidement, à ceci près que les ARN, je crois que ça fait plus de 40 ans qu'on les a inventés, et que le Covid, on travaillait dessus sur différentes formes de Covid depuis des années aussi. Donc ça peut expliquer qu'on soit allé quand même très vite, puisqu'on avait le véhicule et on avait la première analyse. Donc où est l'inquiétude là-dedans ?
Il faut les rassurer.
Quand les gens vont, par exemple, faire une chimiothérapie, est-ce qu'ils demandent ce qu'il y a dans le produit ou est-ce qu'ils se l'avalent, ils se le prennent sans poser de questions ?
Ils ne comprennent pas forcément par rapport aux chimiothérapies, les questions viennent après, bien souvent. Quand ils sont à domicile, etc., on essaie d'échanger avec eux. Après,
enfin, la différence, c'est quand on fait une chimio, on est déjà malade.
Oui, on l'est déjà. Après,
donc, on est moins regardant. On est moins regardant et on a beaucoup plus d'espoir dans le médicament. C'est très curieux comme démarche intellectuelle.
L'humain est particulier et j'ai envie de dire, l'humain, il faut le rassurer. Il faut le rassurer, il faut lui donner raison. Donc, pour moi, la méthode est différente selon les personnes, selon les catégories de personnes. Et braquer les gens n'est pas une solution, il faut juste être transparent. C'est important d'être transparent, parce que bien souvent, le fait d'être transparent et de dire « je suis pas sûr », ça les rassure, parce que vous êtes honnête. Et quand vous êtes honnête, il aura plus tendance à vous faire confiance.
C'est de l'honnêteté ou un peu de... On va pas dire de l'hypocrisie, mais un peu de...
C'est de l'honnêteté.
De l'honnêteté.
On a le droit de pas savoir. Et dans le médical, on ne sait pas tout.
Dieu merci, non.
J'ai la chance de me poser des questions tous les jours.
Il faut toujours se poser des questions. On fait une première pause musicale, Marwa Mourani, c'est vous qui l'avez choisie, alors je vous laisse la présenter, qu'est-ce que vous avez souhaité nous faire entendre ?
Oui, j'ai voulu partir sur une petite onde positive, pour dire merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc la chanson de Stromae, Santé, qui est quand même de bonnes ondes et qui permet aux gens en fait, de ne pas oublier de dire merci à ceux qui vous entourent, celui qui fait le ménage, celui qui vous a apporté juste un sourire, un bonjour, ne l'oubliez pas et n'oubliez pas de dire merci.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez, mieux vaut ne pas si. Frottez, frottez, si tu ne me connais pas. Brossez, brossez, tu pourras toujours te brosser. Brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Voilà, c'était Stromae, le choix de notre invité, notre infirmière, Marwa Omrani. Donc on est rassurés d'être avec nous dans le studio, s'il se passe quelque chose, elle sera là pour nous. Alors plus sérieusement, vous vous ennuyez dans votre métier apparemment, puisque vous avez eu une idée de créer une jeune société qui s'appelle My Medical Transport, c'est ça, j'ai bien prononcé?
Tout à fait.
Voilà, alors ça débute, j'ai pas tout compris pour dire le vrai, qu'est-ce que vous allez réellement faire dans cette société? Dites-nous tout.
Alors, dans mon activité d'infirmière, j'ai été face à des problématiques concrètes qu'on a beaucoup, je pense que s'il y a des professionnels de la santé qui écoutent, vont reconnaître le problème du transport sanitaire, la difficulté de trouver un partenaire transporteur qui va emmener le patient à son rendez-vous en hospitalisation, que ce soit un VSL, un taxi agréé CPAM ou une ambulance. Donc on a cette difficulté concrète.
Pourquoi cette difficulté? Parce qu'il y en a, on en voit tous les jours. On a tous dans la famille quelqu'un qui est transporté, moi le premier, et il n'y a pas vraiment de problème.
Tout à fait, mais vous les voyez circuler, mais ils ont énormément de boulot. C'est très complexe pour eux, les pauvres, parce qu'ils sont assujettis à la réalité, c'est-à-dire les pannes, les bouchons, les retards d'hospitalisation, les retards de consultation.
Ah oui, ben ça fait partie du métier, c'est inhérent au métier. Alors comment vous allez contourner ce problème?
Alors nous, l'objectif, c'est de pouvoir aider le transporteur sanitaire à avoir une demande qui soit adaptée à sa localisation. Donc on a intégré donc en fait dans l'outil un outil de géolocalisation qui permet en fait d'adapter le flux par rapport à l'activité réelle du transporteur.
Donc si je comprends bien, vous n'allez pas transporter vous-même, c'est pas vous qui allez trouver des véhicules, des chauffeurs pour transporter, mais vous allez mettre un outil au service de ceux qui transportent déjà.
Tout à fait, un outil pour ceux qui transportent.
Ça s'appelle de l'Uber médical, ça, non? C'est pas très bien vécu, hein, je vous le dis.
Je vis très mal, oui, que ce comparatif.
C'est la première idée qui vient, c'est même l'idée qui vient au VTC, parce que j'ai quand même un peu parlé de votre projet autour de moi, des gens qui font ce métier de transport. Ça les a pas fait sauter de joie, mais peut-être une méconnaissance.
En fait, c'est sûr que les gens ont tendance à penser à Uber, sauf que je n'ai pas la prétention de vouloir être Uber et encore moins les valeurs d'Uber. Mon objectif est d'aider tous les acteurs autour du patient. Donc je m'y intègre, j'intègre les établissements de santé aussi, et j'intègre aussi le patient avec sa famille. Donc il a un outil pour lui qui va lui permettre d'envoyer sa demande. L'établissement de santé a géré de manière simple sa demande, d'optimiser et aussi de suivre le patient. Le transporteur sanitaire, je ne suis pas quelqu'un qui va prendre sa décommission, je ne suis pas du tout une société qui va être là pour le chiffrage, on va juste leur organiser et leur fluidifier leur travail. Nous mettons juste à profit un outil et nous n'avons pas du tout les valeurs en fait de faire travailler des indépendants pour nous. On travaille tous ensemble autour du patient. Donc ça veut dire que l'ubérisation, c'est que dans l'utilisation de la géolocalisation. Le reste des valeurs ne sont pas du tout les mêmes qu'Uber, même s'ils marchent très bien, etc. Mais on n'est pas du tout dans la même visibilité. Aujourd'hui, les transporteurs sanitaires seront mes partenaires. C'est-à-dire que nous sommes tous ensemble autour du patient. Les établissements de santé seront mes partenaires aussi autour du patient. Donc l'objectif, c'est de recentrer le patient là-dedans. Et les transporteurs sanitaires, en connaissant leurs problématiques, je sais très bien que c'est très anxiogène, très compliqué. Donc l'objectif, c'est de leur faciliter, de l'enlever, cette partie anxiogène, et les aider de manière à ce qu'ils puissent avancer.
Ouais, ils sont organisés quand même. D'abord, certains ont plusieurs véhicules. Hein. Il peut y avoir des sociétés un peu importantes ou moins importantes. Ils s'entraident entre eux. ils ont leur tournée, ils ont déjà quand même une organisation qui leur permet de faire face à la demande.
Vous avez même des regroupements qui se forment, tout à fait.
Qu'est-ce que vous apportez donc en plus ?
En fait, la liberté du coup d'avoir d'autres demandes. Par exemple, on a la possibilité de leur favoriser en fait et d'effacer ces kilomètres d'approche. Aujourd'hui, financièrement parlant, tout le monde est dans des difficultés, y compris les transporteurs sanitaires, avec l'augmentation à la hausse de l'essence, l'augmentation des charges. On est tous face à ça. Là, l'objectif, c'est de leur apporter des solutions pour les aider. Donc, en limitant les kilomètres d'approche, donc en leur donnant accès à des courses qui sont à d'autres établissements. Prenons pour exemple un transporteur sanitaire qui travaille, par exemple, avec une clinique A et qui va transporter un patient, par exemple, de chez lui à cette clinique A. Cette clinique A va pouvoir lui envoyer de manière instantanée une demande lui permettant d'aller à la clinique B et donc d'accéder à un panel de courses auquel il aura plus facilement accès par le biais de l'application. Je suis autonome, c'est un outil autonome où je ne gère absolument pas la redistribution et c'est la réalité du terrain qui redistribue les courses. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui gère, c'est le travail des chauffeurs. Et l'indépendance, c'est très important et c'est notre innovation.
Est-ce que, je vous pose une question, ce n'est pas moi qui vous la pose, c'est quelqu'un qui est du métier. Qui me dit, mais nous avons quand même une réglementation, et je lis dans le document, je vais envoyer le véhicule le plus proche.
Tout à fait.
Et elle me dit, sauf que c'est une dame, elle me dit que si moi, taxi de cette commune, parce qu'elle a sept communes hein, sur lesquelles... Imaginons que je pose un client à l'hôpital de Rangueil, et la plateforme donne une sortie sur Purpan, parce que je suis le taxi le plus proche, eh bien, me dit-elle, si un taxi toulousain inscrit lui aussi sur cette plateforme n'a pas la course, parce qu'il est hors secteur, il va pouvoir me dénoncer à la répression des fraudes pour maraude hors de mes communes. Comment règle-t-on cette problématique ?
Alors là, on parle de transport sanitaire, donc avec des agréments en fait CPAM. Mmh. Donc, c'est des conventionnements avec les établissements. Surtout que c'est une activité qui est totalement en train de changer au fur et à mesure, avec l'article 10 qui se met en place, etc. Et là, aujourd'hui, on est dans une réglementation parce que tout est contractualisé avec les établissements. On protège les transporteurs et on protège les établissements aussi de l'autre côté. Aujourd'hui, pour du transport sanitaire, il y a quand même le libre choix du patient, chose que nous respectons encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le patient, il a son favori, c'est son favori qui sera privilégié. Aujourd'hui, on sait que les sociétés de transport ont peur de perdre leurs clients fidèles. L'objectif, ce n'est pas ça, ce n'est pas de leur enlever leurs clients fidèles. Ils seront prioritaires, puisque le libre choix du patient est nécessaire pour remettre le patient au milieu. Là, la réglementation pour l'article 10 aussi leur donne accès à des courses interhospitalières, mais elles sont réglementées avec des partenariats. Le privé fait ce qu'il veut et l'hôpital est en train d'évoluer parce qu'on a ce célèbre tour de rôle qui est une problématique pour beaucoup de transporteurs qui n'y ont pas accès, alors qu'ils devraient y avoir accès. Nous, l'objectif, c'est donner justement l'accès aux courses à tout le monde, en géolocalisant, en respectant en fait tout ça et en aidant les transporteurs sanitaires à fluidifier leur activité.
Et comment vous rémunérez ? Parce qu'il faut bien... c'est quand même... c'est un logiciel, j'imagine. Il a fallu le créer. Ça coûte beaucoup de sous. Après, ça s'amortit très largement. Mais au début, il y a une grosse mise de fonds. Comment vous allez vivre avec ça ?
L'objectif, c'est l'outil est créé. Ça fait des années que je suis dessus. Et
c'est vous qui l'avez créé ?
C'est mon développeur avec ma demande, en fait, ma demande. Donc l'outil est là, fonctionnel et adaptable, adapté. Il s'adaptera toujours à l'activité, à la réalité du terrain. Qui dit partenariat, dit mise en avant de problématiques. On va rechercher des solutions à ces problématiques, tant du côté du patient, tant du côté de l'établissement de santé et tant au niveau des transporteurs sanitaires. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'être juste. De ne pas être dans un business économique, dans un exemple économique de certaines grosses sociétés. Ce n'est pas mon objectif. L'objectif est d'être juste et de les aider. d'aider tout le monde.
Et vous faites aider tout le monde, c'est bien, mais vous n'êtes pas l'abbé Pierre, hein, ou Mère Teresa plutôt. donc, il faut rentrer des sous. Vous allez marger sur quoi ?
On va mettre juste un accès au logiciel, en fait. Dès qu'ils ont... les partenaires qui veulent travailler avec nous, ils payent juste un accès, une location, en fait, de l'outil pour eux. Et ça leur permet d'amorcer très vite cet outil et de travailler comme ils veulent, autant qu'ils veulent. Et c'est à eux de voir.
C'est long pour développer ce type de logiciel.
Ça peut être très court pour des personnes qui ne s'appellent pas Marois et ça peut être très long pour des expériences comme Marois.
Vous devancez ma question, mais est-ce que quand on s'appelle Marois Morani, que l'on exerce au Mirail et qu'on va voir un banquier, est-ce qu'on est bien reçu ? Est-ce que vous êtes écouté ? Est-ce que le banquier joue le jeu ?
Alors, je n'ai pas l'habitude de demander quoi que ce soit à qui que ce soit.
Oui, ça y vaut mieux, c'est déjà voilà. Mieux, surtout un banquier d'ailleurs.
Voilà, enfin, il faut aller le voir quand tout va bien.
Oui, voilà, quand on n'a rien à leur demander, mais est-ce que vous avez pu financer quand même ?
Je l'ai autofinancé jusqu'ici. J'ai fait beaucoup de concessions depuis des années pour pouvoir donner vie à cet outil. Aujourd'hui, j'en suis contente. Il est là, c'est bon. J'ai eu des difficultés qui étaient complexes, que nous racontons en fait dans notre page où mon responsable de com explique un peu toutes les péripéties que j'ai eues.
Alors on peut le lire ou donner l'adresse.
Vous avez My Medical Transport, vous avez sur Facebook, LinkedIn, Instagram, vous nous trouverez assez facilement et on vous raconte un petit peu tout ça. Et c'est vrai que depuis, j'ai créé la société en 2018, j'ai eu l'idée en 2015, j'ai déposé le concept et donc la marque avant d'avoir créé la boîte parce que je ne me sentais pas encore prête. Et quand je me suis sentie prête, j'ai commencé à mettre en place tout ça et j'ai eu divers problèmes qui vont parler à beaucoup d'entrepreneurs. Problème de mauvais choix de partenaire. Donc, je n'ai pas réussi à respecter mes délais que je voulais. Et ensuite, j'ai eu d'autres soucis avec, entre autres, le Covid. Donc, le Covid est arrivé, j'ai eu un choix à faire. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à m'acharner sur MMT ou est-ce que je garde ma casquette d'infirmière à ce moment-là ? Et le choix a été très, très vite fait. J'ai mis entre parenthèses l'outil et je me suis dit, c'est mes patients qui ont besoin de moi et c'est mes patients qui sont prioritaires. Donc pendant 2 ans, j'ai gardé que ma casquette infirmière.
Donc vous êtes consacré sur le cœur du réacteur,
c'est ça,
et qui ramène des sous, puisque le reste n'en ramenait pas encore.
Oui, le reste n'en ramène pas encore. Et puis surtout, si vous faites les choses pour de l'argent, au départ, je pense que c'est quelque chose de pas forcément judicieux.
Non, mais c'est quand même le moteur de beaucoup. Alors, quand est-ce que ça va être opérationnel ?
Alors, au mois de mars, on est officiellement lancé. Au mois de mars, on lance les applications établissements. On est en discussion sérieuse avec des établissements de santé qui ont vraiment de grosses problématiques. Donc, a priori, ils sont plutôt satisfaits de l'outil et de la...
Ça veut dire que les établissements de santé vont adhérer ?
Tout à fait.
Et quand ils auront besoin d'un transport... Ils vont passer par la plateforme, hein, c'est ça ? Par la plateforme, ils vont appeler un transporteur donc, avec qui certainement ils ont déjà travaillé, mais ce sera une interface.
Ils ne vont même pas appeler, ils vont juste appuyer sur une souris et sur un bouton et la demande sera envoyée auprès du transporteur partenaire avec eux parce que c'est Régis ou partenariat. Mais les partenariats sont régis.
Mais ça implique quand même, pardon, je suis absolument pas du tout technicien, donc je pose des questions de Béotien. Ça implique qu'il y ait une géolocalisation de tous les transporteurs.
Tout à fait.
Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient adhéré.
Tout à fait.
Donc il faut une adhésion extrêmement large de tous ces gens.
Tout à fait, il faut une adhésion large. Mais...
Et des établissements de santé et des VSL et autres taxis médicalisés.
Tout à fait. Alors l'objectif, c'est vraiment de regrouper toutes les demandes qu'on peut avoir en effaçant les craintes. Je suis déjà en discussion avec les syndicats aussi parce que c'est important de répondre à toutes les règles de tout le monde, d'être en règle et de protéger chaque acteur. Parce que notre outil, c'est un outil pour des partenaires et pas pour des clients. J'ai pas la vision... commerciale et je ne suis pas une commerciale.
Vous débrouillez pas trop mal quand même pour ne pas être une commerciale.
Je pense qu'il y en a qui se débrouilleraient beaucoup mieux parce que j'ai l'aspect humain qui est au centre de la valeur de tout. Et les transporteurs sanitaires, quand ils ont des questions, je suis largement accessible. On peut en discuter, on peut échanger. C'est mes partenaires dans mon activité d'infirmière et c'est aussi mes partenaires sur MMT. Et l'objectif, c'est vraiment de solutionner. Je ne suis pas là pour sortir la solution miracle. Mais je suis là pour leur donner un outil qui est fait pour eux et qui fonctionnera grâce à eux. Donc c'est important aussi de le rappeler et que je ne suis pas là pour... Tout le monde peut travailler avec nous, même des regroupements, même avec le petit transporteur sanitaire qui n'a pas envie de faire partie d'un regroupement. Il veut rester libre, il n'y a pas de problème. Tous les choix, c'est comme dans mon activité d'infirmière, je laisse le choix.
Là, vous avez réussi à avoir un panel suffisant de transporteurs et d'établissements, puisqu'il faut les deux bouts de la chaîne.
Tout à fait, il faut les deux bouts de la chaîne et il faut surtout ne pas oublier pourquoi on est tous là, y compris les transporteurs, on est là pour le patient.
Alors justement, le patient, moi je suis un patient, j'ai besoin de me faire transporter. Comment je fais? Est-ce que j'ai pas adhéré à votre plateforme, à l'évidence, donc comment ça va se passer?
Vous n'avez pas besoin. Vous avez juste votre application MMT Patient que vous téléchargez sur votre téléphone.
Donc il va falloir aussi faire quand même de la publicité auprès de tous ces gens. Comment vous allez la faire?
Je pense que les professionnels de la santé, les infirmiers libéraux, les secrétaires médicales, les médecins connaissent la problématique et cet outil répondra aussi à leurs demandes et permettra même justement à travers son utilisation de venir se faire connaître des patients et les patients et leurs familles, parce qu'on a bien souvent, j'ai l'avantage de travailler sur le Mirail, donc on a beaucoup les enfants qui s'occupent de leurs parents, etc. Donc on a même cet outil qui peut être mis en place pour des familles, par exemple pour le papa, pour prendre rendez-vous pour un papa ou une maman qui a un rendez-vous. Et ça permet aux enfants d'apprécier plus le moment avec leurs parents et plus se stresser à passer son temps au téléphone. Même s'il n'est pas avec son parent, il peut gérer une problématique. J'ai voulu faire un outil qui fasse gagner en humanisation.
Donc là, si je suis patient, je suis obligé pour vous contacter d'avoir chargé l'application, on est bien d'accord?
Tout à fait, vous téléchargez l'application, vous créez votre profil.
Il y a quand même beaucoup de gens qui sont transportés, qui ont un certain âge, même un âge certain pour beaucoup, qui n'ont pas forcément de portable ou qui ne savent pas s'en servir ou dont la vue a baissé. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas être un frein à votre développement?
Vous avez toujours quelqu'un qui est à côté de vous, l'auxiliaire de vie, l'infirmière. C'est nos fonctions aussi à nous pour essayer de pouvoir les aider à côté. Ce que je fais déjà aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous pensez que tous anti-Covid, tout le monde sait l'utiliser? Eh bien non, on s'est adapté, on a essayé d'aider les gens. Et donc voilà, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. On ne peut pas se voiler la face, tout le monde a un téléphone. Donc il faut juste l'utiliser. Et ça, ce n'est pas obligatoirement la personne âgée qui ne sait pas l'utiliser. Il n'y a pas que des personnes âgées, n'oublions pas. Il y a aussi des personnes qui ne savent pas lire et écrire aussi. L'utilisation est simple. Une fois que vous avez créé votre profil, c'est fluide.
Géographiquement, vous allez arroser quel secteur? Uniquement Toulouse, intramuros, où on va s'étendre? Parce que c'est un produit qui peut s'appliquer partout. On peut l'avoir, vous pouvez le dupliquer à peu près dans toutes les villes si vous avez la force commerciale pour le vendre.
L'objectif, c'est pour l'instant viser Toulouse et au travers de la régionalisation des soins. C'est quelque chose dont on y passe tous. On est obligé de visualiser plutôt la région. J'ai voulu au départ faire que Toulouse, mais la région, c'est obligatoirement une évolution qui est dans le cadre de la santé aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup de sectorisation. Donc l'objectif, c'est de commencer par Toulouse et sa région, et après de développer au niveau national, parce que c'est un outil qui peut vraiment changer la vie, je pense, à tout le monde.
Ça n'existe pas déjà, il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de produit concurrent, vous avez vérifié, bien sûr.
Pas fait de la manière dont je l'ai monté. Et aujourd'hui, il existe des plateformes qui font du dispatch de courses.
Alors quelle va être la différence entre ces plateformes et la vôtre?
Mais l'optimisation.
Qu'est-ce que c'est l'optimisation en l'occurrence?
L'optimisation, c'est que je ne passe pas un coup de fil à un collègue pour lui demander s'il peut la prendre. Il a le libre choix directement sur son téléphone.
Ce qu'ont les taxis parisiens finalement, puisqu'ils ont, ou même peut-être les taxis toulousains, mais ici je n'en prends jamais, j'imagine que c'est un peu pareil, non? Ils ont un boîtier sur lequel s'affichent les courses, ils prennent ou ils ne prennent pas.
Tout à fait, il existe pour le taxi pur, ils ont cet outil-là qui est à disposition sur Toulouse, surtout avec une grande société de Toulouse qui s'en occupe et qui le fait très bien d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, moi, notre secteur c'est surtout le patient. Je suis infirmière, je m'occupe du patient malade.
Vous avez contacté l'ARS, vous avez échangé avec eux là-dessus?
Tout à fait, on est en cours, ils ont beaucoup de travail en ce moment avec la crise que nous traversons encore. Mais j'ai la chance, oui, d'avoir des intermédiaires au bout du fil. Et
comment ils jugent, ils apprécient cette plateforme, ce service ?
Ils savent très bien qu'il y a une vraie problématique dans le domaine du transport sanitaire. Les établissements de santé crient, envoient l'alarme. Mais c'est un acteur qui est très important, l'ARS, pour en parler. Comme les syndicats de transporteurs sanitaires, c'est très important qu'on se pose tous ensemble, qu'on en discute, qu'on trouve des solutions, qu'on fasse travailler tous nos méninges, et on y arrivera à mener le système de santé vers un monde meilleur, en tout cas juste dans le domaine du transport sanitaire, pour moi aujourd'hui.
On fait une deuxième pause musicale, Marwa Mouhani, c'est moi qui l'ai choisi, donc on va écouter la javanaise. Alors on va écouter surtout Victoria Abril qui va revisiter la javanaise, chanson qui n'est pas, j'imagine que vous la connaissez, qui n'est pas neuve, hein, date de 1963, elle avait été écrite par Gainsbourg pour Juliette Gréco originellement. Mais là, on va écouter la version qu'en a faite Victoria Abril.
J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour.
Antes de conocerte a ti, corazón.
Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
Abandono solo el compás de esta canción.
Votre avis, qu'avons-nous vu?
Y que puedo decirte yo del amor.
De vous à moi, vous m'avez dit.
Si sabes mucho más que yo, corazón. Lo siento tanto, pero bailando, bailando y bailando y bailando.
Nous aimions les temps d'une chanson.
Abrí en vano, me dio este amor.
J'avais envie de voir en vous cet amour.
Lo siento tanto, pero bailando, bailando y bailando y bailando.
Voilà, la javanaise de Gainsbourg, revue par Victoria Abril. Bon, elle a pris un petit côté hispanisant qui n'est pas désagréable du tout. On retrouve Marwa Mouhani. Alors, on avait su dans la première partie, on avait compris dans la première partie de cette émission qu'elle était infirmière au Mirail, que c'était presque un petit sacerdoce pour elle, mais qu'elle faisait avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'empathie à l'égard de ses clients. Elle nous a expliqué Ensuite, MMET, donc cette plateforme, cette application qui va permettre de rationaliser, peut-être de mieux travailler dans le transport médical. Donc ça va intéresser tout le monde, les établissements, les transporteurs et surtout son principal souci, ce sont les patients. Alors, Marwa Ouamrani, quand vous ne faites pas, vous ne soignez pas, quand vous, je ne sais pas comment vous faites pour arriver à tout faire en même temps, parce qu'on sait comment travaille une infirmière. Ce sont des journées qui sont plus que pleines et que beaucoup ne voudraient pas faire. Donc, derrière, aller lancer une société sur, dans un terrain qui n'est pas forcément évident, aller faire du commercial, convaincre les gens, c'est une... Vous avez pris votre bâton de pèlerin, là, vous avez des journées de combien ? De 20 heures, comment vous faites ? Il paraît que M. Macron ne dort que 4 heures. Est-ce que c'est votre cas ?
Non, pas beaucoup, c'est vrai. Mais les journées sont longues. Après, on arrive à lier un petit peu tout ça. Et puis, j'ai la chance d'être bien entourée dans les deux domaines.
Ça, c'est fondamental, oui, pour avoir beaucoup d'activités. Être bien entouré permet de réussir, sinon... On va droit à l'échec. Alors, quand vous ne faites pas toutes ces activités, vous avez créé une association, enfin, elle est en cours, qui s'appelle Nos Liens du Cœur. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, c'est vrai qu'avec mes amis, sur notre temps libre, j'aime bien partager...
Ouais, parce que vous avez quand même encore du temps libre, hein, vous voyez, ouais. Vous ne travaillez pas assez. Hein.
Pour ma famille et mes amis, et sur ce petit moment, ce que j'aime, j'ai des amis qui ont au grand cœur aussi, des gens qui m'entourent au grand cœur, et c'est vrai que de temps en temps, on fait des petites choses... pour essayer d'aider notre prochain. Et la dernière fois, suite à la perte de mon grand-père, j'ai fait une distribution alimentaire. Et du coup, on l'a fait...
Pourquoi ? Quel est le rapport entre la perte de votre grand-père, qui est récente, je crois savoir, et la distribution alimentaire ?
C'est comme... culturel. Alors, dans la religion musulmane, on est très tourné vers les autres. Et quand on perd quelqu'un, on fait des repas pour les plus démunis. Et mon grand-père m'a toujours dit, Marwa, si je pars... juste un repas pour les plus démunis. Donc j'ai voulu faire ça comme il voulait, comme il me l'a demandé déjà. Et du coup, on a fait ça avec mes amis. Et c'est vrai que ce petit moment de partage, qui était un moment où on a fait du bien, même les enfants de mes amis ont participé. Et ça m'a vraiment touchée. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre tout ça en association, une petite assoce, où on ne cherchera pas de fonds, où on s'aidera entre nous à la hauteur de ce qu'on peut et on pourra faire ça de manière officielle auprès des gens et faire participer ceux qui veulent.
Qui c'est qui va en bénéficier ? Alors tous les sans-abri, tous les gens qui sont à la rue, tous les gens qui sont en difficulté, il n'en manque pas aujourd'hui. Hein,
non,
il en manque. De tous âges et de tout niveau. Hein,
de tout niveau, tout à fait. L'objectif, c'est de se canaliser sur la partie alimentaire, la partie accès à la boisson et la partie hygiène. Je voulais vraiment rester canalisée sur...
C'est un nouveau Resto du Cœur, c'est ça ?
J'ai pas la prétention. Ils font très bien leur travail. Moi, je fais juste à hauteur de mes petites compétences.
Là, ça sera sur le Mirail, le secteur du Mirail, pas forcément ?
Non, j'ai pas mis de secteur. Mais en tout cas, je pense que c'est une fois qu'on est sensibilisé ou l'un d'entre nous croise quelqu'un qui aurait besoin, on va se faire un listing et essayer de pouvoir les aider comme on peut. Au Mirail, certes, il y a des endroits où il y a des squats, où ils ont besoin, mais il n'y a pas que là-bas.
Le sport, un peu quand même. Hein. Il faut travailler son corps, pas que la tête. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez le temps ?
En ce moment, j'ai peu le temps, mais la danse, c'est mon défouloir. Ouais.
Ah, la danse. Alors, qu'est-ce que vous dansez ?
Ouais, je suis plutôt solaire, comme on a entendu précédemment par rapport à la musique que vous avez choisie. J'aime plus tout ce qui est bachata, salsa, orientale. J'aime ce qui est énergique.
Et on trouve ici beaucoup d'associations de gens qui pratiquent ?
Oui, il y a des gens. Moi, je n'ai pas le temps d'aller en association. Il y en a déjà beaucoup qui sont... C'est un moment de partage. Mais j'ai la chance de pouvoir faire ça avec mes amis. Quand ils me mettent un petit peu de musique dans le salon, je démarre assez rapidement.
D'accord. Donc, ça reste familial,
oui.
Et amical. Une œuvre d'art qui vous a marqué ? Alors là, il y en a une précise. Maïdi, c'est une œuvre comme un associé m'a offerte, mais quelle est-elle ?
Alors, mon associé m'a offert pour mon anniversaire un tableau qu'elle a fait en s'inspirant de notre lien et puis de moi.
Ah, donc elle est peintre ?
Elle est peintre, oui.
Donc, une infirmière peintre.
Tout à fait.
Vous n'arrêtez pas les infirmières, là, hein ? Vous êtes des hyperactives ?
Je pense, oui, on doit mettre notre énergie ailleurs. Et Florence, donc, qui m'a offert ce tableau, d'ailleurs, sans avoir fait attention, va totalement dans le décor de mon salon et c'est un tableau qui m'est très cher. Sur ce tableau qui est assez beau, elle y reflète...
Ah, il est beau tout court, il faut le dire.
Oui, oui.
Pas assez, il est beau.
Pour moi, ça a une valeur plus que sentimentale. Je pense qu'il est inestimable pour moi, vraiment, ce tableau. Elle a essayé de mettre un petit peu Marois sur tableau et c'était un petit peu... C'était un petit peu ça. Il m'a parlé de suite.
Vos associés ont votre âge, vous êtes dans la même tranche d'âge ou pas du tout?
Non, pas du tout. On est très variés. On a Florence qui travaille au quartier du Mirail depuis 35 ans. Donc elle,
une vieille routière du Mirail.
Elle adore. Ouais. J'aime beaucoup parce qu'on a vraiment les mêmes valeurs, etc. Et il y a Mylène qui a un an de plus que moi. Donc je suis la petite dernière arrivée et puis la plus jeune des trois.
Bon, le bébé agité, je comprends bien. Hein.
C'est ça.
Un moment particulier qui a marqué votre vie, Marois Monbrani?
Justement, c'est en 2015, d'où est née l'idée de My Medical Transport, une de mes patientes, qui est partie en consultation. Et du coup, je devais revenir la voir à 19h. Je pensais qu'à 15h, elle serait de retour. Sauf qu'elle est arrivée à 20h. Et quand elle est arrivée à 20h, elle était dans un état. Elle m'a vraiment déchiré le cœur. Elle était un mélange de colère, de désespoir. Et elle m'expliquait qu'elle avait fini le rendez-vous depuis 16h30 et qu'elle est restée à attendre. Et donc, du coup, au final, elle n'était pas bien. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, bon, mince.
Il y a quelque chose à faire.
Ouais.
D'où la création et la naissance d'MMT.
Tout à fait.
Qui c'est qui a été important dans votre vie, qui vous a inspiré, qui a des valeurs, qui vous a inculqué certaines valeurs peut-être?
Il y en a quelques-uns, mais j'ai surtout ma maman. Ma maman qui a été un sacré exemple, du coup, parce qu'elle s'est mariée.
C'est très méditerranéen ça quand même, hein, la famille, le grand-père, la maman.
Mais elle encore plus. Elle est arrivée d'un petit village, elle a divorcé alors qu'elle était enceinte dans un petit village du désert, chose qui est assez atypique.
Oui, ça, c'est une grande première, ça, oui.
Ouais, mais c'est papy qui avait des valeurs, qui repose en paix, des grandes valeurs, qu'il a inculquées à tous ses enfants. Et du coup, ma mère, depuis ma naissance, elle se bat pour essayer de me montrer les bonnes choses. Elle a tout quitté, elle est venue en France. Elle est repartie de zéro et elle m'a inculqué les bonnes valeurs, d'où le fait qu'aujourd'hui... C'est important pour moi de bien faire les choses et puis de laisser sa place propre. Parce que si on part demain, il faut quand même qu'on n'ait pas de regrets.
Ah, vous avez le temps de faire des choses. Hein. Vous n'allez pas partir demain, dans l'ordre, normalement, dans l'ordre logique des choses. Et votre mère et votre père aussi?
Oui.
C'est plus la maman qui a compté que le papa ou...
C'est plus la maman et c'est plus mon papa qui m'a élevée. Ce n'est pas mon père biologique. Mais c'est lui qui m'a élevé depuis l'âge des 5 ans. Qui est...
Oui, donc c'est le papa. Hein. C'est lui qui a tout apporté, qui a tout appris, qui a tout transmis.
Tout à fait, le rôle de papa, ce n'est pas que génétique.
Voilà,
je dis ça, je dis rien, messieurs.
Absolument. Vous avez d'autres projets, là? Qu'est-ce que vous allez nous faire après? Parce que là, ça va démarrer, la société, je comprends bien. Une fois que ça va tourner, ça va rouler tout seul, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez imaginer autre chose?
Je ne sais pas. On verra, j'espère pas. J'espère pas, vu les péripéties, j'espère qu'on va calmer le jeu.
Est-ce que vous avez le temps de lire au milieu de tout ça? Oui, ça fait du bien. Alors moi, je pense à ma cliente Myriam, là, qui se reconnaîtra parce qu'elle nous écoutera, j'en suis sûr, qui, elle, a toujours des livres dans la voiture, puisqu'elle a quand même aussi de l'attente. Et peut-être que votre procédé leur permettra d'avoir un peu moins d'attente. Donc quand elle ne fait pas de la comptabilité, elle lit. Et vous, qu'est-ce que vous lisez?
Alors, il y a un livre qui me marque beaucoup et que je relis encore de temps en temps quand je le peux. C'est Les 4 accords Toltec.
De Miguel Ruiz.
C'est ça.
Qu'est-ce qui vous attire dans ce livre particulièrement?
Mais en fait, les valeurs qu'il émet nous permettent de beaucoup avancer. Moi, ça m'a permis en fait de comprendre un petit peu et puis d'avancer plus simplement. Donc l'un des accords, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. C'est véritable. Il faut parfois ne pas s'arrêter sur des choses qui vous arrivent. Il ne faut pas vous sentir attaqué, vous. Il faut avancer. Il faut passer la page. Et quand on utilise ces 4 accords dans la vie de tous les jours, c'est vrai que ça facilite quand même beaucoup, beaucoup mieux. Quand il nous dit aussi de faire de notre mieux, c'est vrai. Il faut toujours faire de son mieux pour ne pas avoir de regrets. Même si ça m'arrive encore. Hein. Des fois, je rentre, j'ai des regrets. Mais il faut essayer de faire de son mieux et essayer de se dire, bon... la prochaine fois, je ferai encore mieux, et on évolue toujours avec le temps. Donc, ça fait partie d'un livre que je conseille fortement et qui permet d'ouvrir son esprit et de relativiser sur beaucoup de choses.
Et les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, que vous m'avez cité, de John Gray. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
La complexité de la relation homme-femme. La complexité, donc ce livre, il m'a quand même permis de comprendre qu'en fait, on n'a pas du tout le même dictionnaire.
Ah oui, ça ne marche pas pareil. Hein, mais pour autant, est-ce qu'on arrive à se parler ?
Tout à fait, il faut. C'est pour ça que ce livre, il m'a permis en fait, de me dire, mais déjà à la base, si on n'a pas le même dictionnaire au départ, il faut utiliser plusieurs moyens d'expression pour essayer de faire comprendre à l'autre ce qu'on essaye de dire.
Donc je rappelle vos deux titres, Les quatre accords Toltec de Miguel Ruiz et Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, John Gray. Donc si vous n'avez pas compris que nous ne fonctionnons pas pareil, allez lire John Gray, vous allez voir. Moi je vais vous parler de notre livre, C'est Connemara de Nicolas Mathieu chez Actes Sud. Donc Nicolas Mathieu a eu, je crois, il y a 3 ans un concours et il revient avec... un roman qui s'appelle Connemara, dont je suis en pleine lecture, je l'ai quasiment terminé. C'est vrai que c'est un super livre, il faut bien le reconnaître. Ça raconte en parallèle la destinée de 2 personnages habitant dans l'est de la France, qui est sa région, et qui se trouvent tous les deux entre quête de bonheur, un peu comme nous tous, et puis des illusions professionnelles et personnelles, c'est aussi notre quotidien. C'est un roman qui est très près des gens, c'est l'histoire des comptes qu'on règle avec le passé, avec le travail d'aujourd'hui, avec les open space, les PowerPoint et toutes ces stupidités que nous connaissons. Et puis c'est surtout le récit de ce tremblement qu'on a au milieu de la vie, quand le décor est bien planté, et puis qu'on se dit, ben, on regarde un peu en arrière et on a envie de tout refaire, on va tout rebasculer, on va repartir à zéro. Et puis c'est aussi le récit de l'amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays... qui chante Sardou, qui va voter diversement. C'est écrit avec justesse, c'est le vernis de la France, des périphéries urbaines, on dirait presque des gilets jaunes, je crois qu'ils sont venus un peu de là, de catégories sociales, pas tout à fait populaires, mais pas vraiment dans les classes moyennes non plus, c'est celle des pavillons, et qui connaît aujourd'hui, plus que jamais, plus que hier certainement, la vraie angoisse du lendemain. C'est un très beau livre. Nicolas Mathieu, Connemara, Actes Sud. Voilà, Marwa Mourani, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir trouvé un moment pour être venu nous voir dans cette activité chargée qui est la vôtre. Bonne chance à MMT, donc on peut aller charger ça. Vous avez peut-être une référence à donner ? Non, on trouve.
Sur l'Apple Store, il suffit de mettre MMT patient et pour les patients en tout cas, vous aurez l'application fonctionnelle.
Voilà, bah écoutez, ceux qui ont envie de se faire transporter peut-être en perdant moins de temps, en ayant des gens un peu plus disponibles, un peu plus ouverts, vont aller charger cette application. Merci Marwa Mourani, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique Tiffaine Lemaine. Merci Tiffaine. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission et tous les autres d'ailleurs sur le site de la station Esprit Occitanie. Il est là pour ça, il est fait pour ça. Bonne semaine à toutes et à tous. Adieu.